Eh bien bonjour, ici Chantal Lavoie, de retour à Aime l'été en ce mardi 12 juillet. J'espère que votre semaine a bien commencé et je vous souhaite surtout de bien la poursuivre. Et quelles que soient les conditions météo, on essaie de tirer profit du temps qu'il fait pour se reposer, se divertir, se faire plaisir. Alors je vous invite à partager la prochaine heure avec nos invités qui auront beaucoup de choses à raconter autour de la cuisine autochtone, sur un nouveau festival d'art vivant à Kamouraska. Mais comme chaque région a son festival, on passe du Bas-Saint-Laurent au Saguenay. Nos artistes se déposent ici et là pour notre plus grand bonheur. Tout est prétexte à célébrer. Bienvenue à Aime l'été. Aujourd'hui, il sera question de la 50e édition de Festiram qui a eu lieu, qui a lieu jusqu'au 15 juillet. J'en discute avec Frédéric Gagnon, responsable des communications. Nous allons nous promener du côté de Kamouraska en compagnie d'Hélène McCoy, chargée de projets spéciaux au Centre d'art de Kamouraska. Le sujet, le nouveau festival d'art vivant Archipel qui aura lieu tout au long de la fin de semaine qui s'en vient. Mais d'abord, on va se régaler de la culture autochtone, mais aussi de sa cuisine. Un restaurant qui renaît de ses cendres à Wendake, la Sagamité. Alors profitez de cette belle heure de lunch jusqu'à 13h. Voici votre émission Aime l'été. Eh bien, transmettre son amour du territoire et de ses traditions ancestrales, ça passe aussi par l'assiette. Hein? La gastronomie autochtone, gagne en finesse, mais aussi en popularité au Québec. Alors, portrait d'une cuisine authentique, aux subtilités qui donnent très faim, j'accueille Steve Gros-Louis, propriétaire du restaurant La Sagamité. Bonjour!
Coucou, Madame Lavoie, ça va bien?
Coucou, oui, bien sûr. Alors, oui, ça va très, très bien, effectivement. Et j'imagine que vous aussi, parce que votre restaurant, La Sagamité, qui avait été la proie des flammes il y a quelques années, eh bien, renaît de ses cendres, effectivement, depuis le 24 juin dernier, je pense.
Oui, c'est bien cela. Écoutez, on a reçu beaucoup d'amour de voir les gens traverser la porte puis de s'exclamer en disant « enfin, enfin ». C'était pour nous et d'échanger à la table à chaque personne qu'on saluait leur petite histoire qu'ils avaient vécue là, dans les 24 dernières années au Sagamité nous remplissait énormément de bonheur. Là.
Oui, parce qu'en fait, c'était un restaurant qui accueillait déjà beaucoup de gens qui étaient très, très populaires. Depuis fort longtemps. En fait, ça a été ouvert depuis 1999, hein?
C'est bien ça. J'ai ouvert le premier Sagamité en 99 avec un restaurant de 55 places intérieures pour devenir par la suite 135. Et dans nos derniers travaux, on était en 2013-2014 à 180 places.
Alors là, pour le nouveau, hein, c'est ça. Donc, vous avez reconstruit, mais vous avez vu encore plus grand.
Exactement. On est, selon Tourisme autochtone Québec, qui ont fait des relevés au Canada, on serait rendu le restaurant le plus grand avec 340 places maintenant.
Ah là là, donc vous accueillez bien sûr nombre de touristes, mais aussi des gens d'ici, des gens de partout. Vraiment, vous êtes pratiquement une référence au fond.
Je vous dirais que oui, je veux pas avoir l'air prétentieux, mais le Sagamité est rendu une institution maintenant au niveau là, de la gastronomie des Premières Nations. Vous savez, lorsqu'on a commencé en 99, beaucoup de gens ne connaissaient pas nécessairement les produits du terroir et aussi la cuisine des Premières Nations. Et on a dû venir démystifier ça en ayant une cuisine ouverte lorsqu'on a commencé. Et par la suite, on a pu se permettre d'avoir une cuisine au sous-sol 1 parce que on voulait que les gens voient c'était quoi la gastronomie et de savoir aussi que c'était des viandes d'élevage et non des viandes de chasse que les gens pensaient.
C'est ça, exactement. Donc, c'est une cuisine, de toute façon, qui a beaucoup évolué aussi, forcément. Alors, de nouveaux chefs, des gens qui se forment aussi et qui vraiment peuvent mettre au goût du jour, finalement, leur tradition culinaire. Également.
Oui, j'aime beaucoup ce que vous dites parce que, dans le fond, au Sagamité, nous, on part toujours d'un plat qui est traditionnel, mais on le fait évoluer justement avec les sauces, avec les ingrédients d'aujourd'hui. Et ça, c'est très important. Je vous donne un exemple. Nous, notre plat qui a fait notre renommée, c'est ma création maison, ce qu'on appelle chez nous « Yatista », qui veut dire le feu qui est sacré pour nous, qui est un hérisson de fonte qu'on suspend sur trois tiges de métal et on flambe ces viandes-là à table. Donc, on peut retrouver le cerf, le wapiti, le bison, le bœuf ou même les crevettes. Mm-hmm. Et c'est vraiment de la viande brute qui cuit devant vous. Mais à la fois, dans l'assiette, bon, on va retrouver une dauphinoise, des légumes, des sauces où est-ce qu'on peut tremper. Donc, c'est ça qu'on a fait évoluer. Mais le plat demeure authentique et brut, mais par la suite, on vient l'accompagner avec d'autres choses à ce moment-là.
C'est ça, la yatista, comme on dit, hein, c'est ça. Exact. Et puis, ça veut dire feu en langue huronne.
Exactement, le feu qui est sacré pour nous. Et il a été débaptisé un peu, je vous dirais, parce que les gens le voyaient comme une potence. Donc, les gens, souvent, en français, vont l'appeler la potence. Donc, souvent, les clients chez nous la connaissent plus sur le nom potence, mais le vrai nom, c'est yatista, oui.
D'accord. Alors, vous avez bien d'autres spécialités dont vous pouvez me parler, bien sûr, mais...
Oui, certainement.
Certainement, bien, c'est ça. Alors, justement, mettez-nous en appétit, parce que c'est très varié et puis c'est très vaste aussi à la fois, oui.
Oui, la différence qu'il y a entre le sagamité de Wendake et celui, mettons, qu'on retrouve dans le vieux Québec qu'on a ouvert en 2019,
petit frère,
qui a été le premier restaurant Première Nation dans le centre-ville de Québec après 411 ans que le Québec avait été créé. Ben, dans le vieux Québec, on va retrouver beaucoup plus nos spécialités. Donc, on sait qu'il y a une offre quand même gastronomique importante dans le vieux Québec. Tandis qu'ici, à Wendake, on joue un rôle aussi où est-ce qu'on voit des gens qui sont urbains ou autour de la communauté, à 15-20 km autour de la communauté, qui viennent manger régulièrement. Donc, c'est certain que vous pouvez retrouver un filet doré chez nous. Vous allez pouvoir retrouver un spaghetti à la sauce de viande de gibier, à des pizzas. On a 12 pizzas différentes. Donc, le client va pouvoir retrouver. Mais au-delà de tout ça, ce qui est important, c'est d'aller, quand pour les gens qui vont nous visiter, parce qu'on parle quand même à un auditeur de Montréal, mm-hmm. mais vous pouvez retrouver ce qu'on appelle le friand de gibier, le duo de cerf et de wapiti. On a aussi notre braisé au bison où on a nos côtes levées aussi de gibier.
Eh oui.
On a beaucoup de sangliers. Je vous recommande aussi à la fois, parce que on porte le nom du sagamité, mais le potage sagamité. Vous savez, le potage sagamité, pourquoi on a choisi ce nom-là? C'est parce que justement, on cultivait autrefois les trois sœurs qui étaient la courge, la fève et le maïs. Mm-hmm. Et nous, on l'agrémettait de viande de gibier. Et on venait même qu'à l'échanger avec les Mi'kmaq dans le bas du fleuve. Eux mettaient du poisson. On l'échangeait avec les Inuits, eux mettaient du caribou. On l'échangeait autrefois avec les Algonquins, les Atikabek. Eux mettaient de l'orignal dedans.
C'est
donc,
ça.
La sagamité est devenue avec le temps, même si c'était originairement Huron-Wendat, un plat un peu national du Québec des Premières Nations.
Ouais. Et donc, un peu comparable à la tourtière du lac Saint-Jean ou quelque chose comme ça.
J'adore ce que vous avez dit. Vous demandez à un tremblé du lac Saint-Jean de se fermer les yeux et de penser à un plat nourrissant, il va vous parler d'une tourtière.
Et voilà.
Demandez à une Première Nation, il va penser à une sagamité.
Exact.
Donc, c'est ça. Et sans oublier, évidemment, ce qui a fait notre succès lorsqu'on a commencé, notre tarte au sirop d'érable. Vous savez, c'était le seul moyen pour nous d'avoir du sucre en hiver, le sirop d'érable. Donc, on a une tarte qui est riche, mais qui est très appréciée là, des gens qui viennent nous visiter.
Oui, qui est un peu plus sucrée apparemment que la tarte, finalement, la tarte au sucre traditionnelle.
Exact. Oui, en effet, oui.
Oui, exactement. Et puis, bon, on parle aussi du risotto aux courges, au parmesan et au riz sauvage. Et un petit secret pour couper le goût boisé du riz sauvage, on dit, vous mettez un sachet de thé. Alors ça, c'est un petit secret.
Oui.
Un petit secret bien gardé. Alors,
oui, en effet.
Vraiment, la passion de l'agriculture, la passion de la chasse, vous partagez tout ça. Évidemment, il y a les techniques aussi culinaires que vous mettez de l'avant. Ça, c'est intéressant aussi en même temps.
Oui, en effet. Puis, vous savez, on pouvait se vanter lorsqu'on était dans le vieux Québec. Là, c'est certain qu'on doit engager un peu plus. Nos cuisines sont plus grandes, on a plus de clients. Mais on était à 50% dans la cuisine Première Nation. Donc, on a beaucoup de Innu, de Wendat et d'autres communautés qui travaillent dans notre cuisine. Fait que ça, on en est très fiers. On développe autour de ça. On essaie justement de former le plus de gens et de donner le goût, justement, avec l'avenir des jeunes, de travailler chez nous présentement, mais peut-être de retourner un jour dans leur communauté, de pouvoir exercer une cuisine dans leur communauté. Fait que nous, on préconise beaucoup ça. On travaille justement, moi, je viens d'un père qui était un chasseur et trappeur mm-hmm. hors pair. Donc, j'ai appris beaucoup de lui, après à moi et mes enfants. Et on essaie de transposer ça. Et c'est ça que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on y va d'un milieu traditionnel, mais où avec les jeunes et les chefs dans la cuisine, bon, on les laisse aussi s'exalter et d'y aller avec l'instinct aussi.
Oui,
et c'est ce
c'est
qu'on
ça,
aime beaucoup chez nous.
D'être aussi créatif. Bon, alors vous êtes un créateur d'emplois. Vos enfants aussi hein, sont impliqués dans l'entreprise, il faut le dire, oui.
Oui, exact. J'ai trois magnifiques enfants. Moi, j'ai épousé une huronne de chez nous. Et mes trois enfants s'impliquent beaucoup, dont mon fils qui est à l'Université Laval, justement... au niveau des entreprises pour pouvoir continuer. Puis on regarde justement ensemble pour, dès l'année prochaine, ouvrir une microbrasserie à nos couleurs, à notre saveur, hein, toujours avec nos produits de maraîcher qu'on cultivait. On regarde pour ouvrir un pub. Et l'année prochaine, on va ouvrir aussi notre propre boucherie, car on a notre propre élevage. C'est ça. Donc, on va être capable de diversifier encore plus notre offre. Et aussi, on aimerait mettre en œuvre un produit de livraison avec le pub, parce qu'on doit aussi... on sait que la pandémie est derrière nous, mais la pandémie nous a appris beaucoup de choses. Et nous, type de restaurant qu'on avait, c'était vraiment avec l'expérience sur place. Donc, si on veut livrer, même si on a un camion-restaurant qui s'appelle le Saga Nomade, qui se promène d'endroit en endroit, on n'avait pas un menu exportable. Donc, pour nous, la pandémie était très difficile aussi.
Mais exactement. Alors donc, pour découvrir des plats, je pense même au caraconi, au dindon, hein, c'est ça?
Oui, le dindon sauvage.
Oui, tout à fait. Alors, il y a plein de choses qu'on va découvrir, des trouvailles culinaires, évidemment, qui sont issues de vos traditions. Mais il faut aussi dire, que vous avez, votre restaurant, vous avez accordé une importance très grande aussi à l'environnement, au décor. Écoutez, c'est vraiment fort intéressant. Vous avez plein d'artefacts aussi dans le resto.
Ça a toujours été notre but. Voyez-vous, mon rêve au départ, dans les années 90, c'était de créer un endroit où est-ce que les gens, avec leurs yeux, pouvaient découvrir la riche culture, avec les chants au tambour lorsqu'il y a un anniversaire, et même de pouvoir... vous savez, j'ai parcouru une partie de la planète avec mon groupe de danse pour crier haut et fort que les Wendat existaient encore. Donc, on peut même offrir des prestations. Donc, pour nous, ça, c'était capital que les gens, quand ils s'assoient, aient des choses à découvrir. On a des magnifiques totems que j'ai dessiné moi-même, où est-ce qu'on raconte des histoires. On a des peintures, on a énormément d'art et d'artisanat, des régalias. Et ça, c'était ce qui nous inquiétait. Lorsqu'on a su, après l'incendie, qu'il n'y avait pas de blessés, pas de morts...
C'était déjà une grande chance.
Oui, exact. Donc là, c'était notre souci, c'était est-ce qu'on peut récupérer les artefacts, et on en a récupéré plus de 80%. Donc ça, c'est toujours, toujours apprécié des gens. Et même présentement, ce que les gens ont, c'est quand même curieux, parce que j'avais hâte de voir la réaction, c'est qu'on a conservé les totems.
Oui, il y en a qui avaient commencé à brûler. De 16 pieds, quand même, que vous avez récupéré.
Exact, c'est ça. Les bouts sont brûlés. On voit une peinture de moi que mon épouse m'avait offert et que j'ai la tête un peu brûlée parce qu'on a laissé le cadre et la peinture comme on l'a trouvé dans les débris pour nous rappeler un peu. Vous savez, on garde toujours à l'avant, mais on doit se servir du passé comme on pourrait dire expérience. Donc, ce tableau-là, on l'a mis dans le corridor principal, lorsqu'il y a la grande escalier, et les gens le regardent, et les gens qui connaissent notre histoire, ils comprennent, puis ils ont apprécié ce geste-là qu'on a fait.
Oui, alors donc, finalement, vous avez vraiment su bien mélanger l'authentique et le moderne aussi, bien sûr. Donc, vraiment, c'est ça, tout ça est en évolution. Donc, un restaurant qui a vraiment pris à la fois de l'expansion, vraiment très intéressant, et puis... Alors, c'est vraiment, on peut découvrir des photos historiques aussi, hein, plein de choses.
Exact. Et savez-vous, tu sais, c'est des fois, la ligne est mince, on voulait pas tomber non plus dans le kitsch. Donc, la ligne est mince, on y va avec de bons goûts. On veut garder une authenticité. Mais il y a le mot qui nous revient souvent, c'est peut-être de dire autant typique que moderne. Donc, on travaille avec les fenêtres à Crémone dans l'ancienne partie. La nouvelle partie, c'est des fenêtres et des murs rideaux qu'on peut découvrir tout le mode de la chapelle au complet, donc le clocher au complet, ou sur la chute à l'arrière, ou est-ce qu'on a une vue impeccable sur la chute Kabir-Kouba. Donc, à quelque part, on a vraiment gardé, oui, notre côté typique, mais avec un bon brin de modernité, et c'est ce qui est apprécié des gens présentement.
C'est ça. Donc, et vous avez pu, vous avez eu la chance, malgré tout, malgré cet incendie qui a été un revers très important, qui vous a quand même, ça a été laborieux, là, parce qu'évidemment, il fallait reconstruire. C'est pas quelque chose qui s'est fait rapidement, hein, on s'entend. Ça, il y a quand même 4 ans qui s'est échelonné, je pense. Hein,
oui, il y avait 3 grands défis qu'on avait. Le premier, c'est qu'on voulait pas reconstruire pareil parce qu'on avait eu des problèmes d'espace de stationnement. Donc, on voulait faire l'acquisition d'une vieille école qui servait plus depuis une trentaine d'années à côté de chez nous, donc qui appartenait au Conseil de la Nation. Il a fallu rentrer en vente publique. Donc, il y a eu un 8 à 9 mois dans ce déroulement-là. Par la ensuite, ça a été, vous savez, on est, puis là, je veux pas avoir l'air péjoratif aujourd'hui, mais on est sur une réserve, donc dans une communauté où est-ce que la loi sur les Indiens s'applique. Donc, le financement, lorsqu'on regarde un projet en haut d'un million, parce qu'il faut comprendre que le CGMT, c'est un projet de 6,3 millions. Mm-hmm. Donc, on s'est embarqué dans une longue aventure pour faire la démonstration au gouvernement d'aller avec Investissement Québec comme prêt pour pouvoir avoir un prêt parce que c'était pas possible avec les institutions financières régulières qu'on connaît. Donc, ça a été un an et demi là, de laborieuse aventure. Et par la suite, ben, est arrivée la pandémie.
C'est ça.
Et la pandémie a tout changé avec ses coûts faramineux entre 30 et 40 les entrepreneurs plus ou moins, je vous dirais, respectables au niveau des délais. Fait que là, on s'est embarqué dans une grande aventure. Fait que ces trois points-là ont fait en sorte qu'on est 4 ans et demi plus tard, mais au moins, on est arrivé au fil d'arrivée. Un peu essoufflé, mais on est arrivé au fil d'arrivée, je vous dis.
Vous bâtissez sur du solide. En fait, bravo d'avoir été aussi entêté. Et là, vraiment, ça débouche sur vraiment plusieurs projets aussi, comme vous parliez finalement de microbrasserie, enfin de plein de choses, plein de projets comme ça. Et vous avez développé une infrastructure qui vous permet aussi d'alimenter, si on veut, le petit frère à Québec, également l'autre succursale, quoi.
Oui, merci beaucoup de me le rappeler. C'est que oui, nos installations de cuisine nous permettent enfin de pouvoir avoir un espace de préparation. Tout est, vous savez, nous, on part d'un gibier complet. Donc, c'est pas des j'arrive pas chez nous en sous vide. C'est les steaks sont livrés comme ça. Nous, on part de quartier, de fesses, et on dépèce, on fait notre propre boucherie, on fait nos propres fonds. Et par la suite, on est capable justement de préparer pour le Vieux-Québec. Mais maintenant aussi, on va revenir sur, au grand jour sur le traiteur. On avait mis ça de côté parce que nos installations ne nous le permettaient plus. Maintenant, avec cette cuisine-là, aussi, on a, avec le manque de main-d'œuvre, on a réussi à mettre 5 fois plus grand nos congélateurs, nos frigidaires, pour nous permettre d'avoir, des fois, on avait des gens pour la semaine, mais plus difficile la fin de semaine. Donc, on est capable de préparer notre nourriture pour affronter les soirs et fins de semaine. Donc, ça aussi, ça nous aide beaucoup. Fait que oui, vous savez, je me dis toujours qu'il faut toujours sortir du positif dans du négatif. Le fait que ça ait pris un peu plus de temps, on a eu le temps de mijoter puis de savoir exactement où est-ce qu'on voulait s'en aller et de mettre en œuvre peut-être d'être meilleur.
Tout à fait. Donc, vraiment, vous avez mis en place une cuisine vraiment à la fois industrielle, mais vraiment aussi authentique dans ses produits et dans cette culture-là. Alors, vraiment, bravo, fleuron de la gastronomie autochtone, le restaurant Sagamité à découvrir, finalement, à redécouvrir sous un nouveau jour à Wendake. Wendake, de toute façon, qui nous accueille si bien avec plein de musées et tout. Enfin, il y a plein de choses à voir du côté de Wendake, de toute manière.
Ben, un gros tiaouin, puis comme on dit chez nous, on dit honnain. On espère de se voir dans le grand sentier de la vie.
Au plaisir. Merci, tiaouin. Steve Gros-Louis, propriétaire et fondateur du restaurant La Sagamité. Au revoir et, ben, écoutez, bon été à vous.
Ben, vous pareillement, puis comme je vous dis, si vous passez vers Québec, on est seulement 15 kilomètres au nord de la ville de Québec, alors gênez-vous pas, ça me fera plaisir de vous faire visiter et de vous faire découvrir notre nourriture.
Ce sera un grand plaisir. Merci.
Au revoir.
Quoi.
Les trois accords, joie d'être gay.
Et oui, les trois accords, parce qu'en fait, normalement, on vous aurait présenté les Cowboys fringants, mais en fait, on va parler du festival, en fait, du festival Festiram. Bonjour avec M. Gagnon, effectivement. Bonjour, M. Gagnon.
Bonjour.
Alors, donc, vous êtes... Oui, effectivement, parce que les Cowboys fringants ont dû annuler, finalement, leurs prestations ce soir. Ça a commencé avec eux, ce soir.
Exactement. On prévoyait les recevoir, mais dû à une annulation de dernière minute à cause du calendrier de traitement de Carl Tremblay,
exact.
Des Cowboys fringants, et les recommandations de son équipe médicale. On a accepté tout de suite... De suivre les recommandations et d'annuler le spectacle. Mais on est heureux parce qu'on est chanceux dans notre malchance.
Oui.
Étant donné que c'est un mardi, bien, les trois accords étaient disponibles pour venir les remplacer.
Tout à fait.
Est vraiment fiers.
Alors, c'est merveilleux.
On est content que les trois accords soient là.
Tout à fait. Alors, Frédéric Gagnon, vous êtes responsable des communications pour Festiram. En fait, là, vous allez m'éclairer un peu parce que Festiram, à la fois, c'est un événement sportif qui a eu lieu en fin de semaine, qui existe, c'est une tradition depuis à peu près 50 ans.
Exactement. Ça remonte en 1974. C'est une course de chaloupe à rame. Au départ, c'était réservé qu'uniquement aux corps policiers. Donc, il y avait la police de Montréal, la Sûreté du Québec d'Alma, la police de Sainte-Foy et la GRC. Bref, il y avait 28 équipes qui départageaient finalement sur la traversée du lac Saint-Jean-Chaloupe. Quel était le meilleur corps policier? Donc, c'était une façon un peu de briser l'espèce de rivalité qu'il y avait.
Oui, c'est ça. C'est une initiative de Gilles Doucet, qui était un ancien policier, c'est ça, qui trouvait que là, c'était assez la rivalité. Et puis donc, entre confrères, alors on a décidé de faire plutôt un événement sportif comme ça pour se mesurer, mais de façon beaucoup plus sympathique.
Exactement. Et c'était beaucoup plus sain comme compétition,
oui.
Je dirais. Et c'est en 1982, par la suite, que la course est devenue ouverte au public. Donc, pour la première fois, il y avait la classe ouverte. Et en même temps, étant donné que l'engouement du public était devenu de plus en plus gros, ils se sont mis à ajouter, à partir de cette année-là, le volet fête populaire qu'on connaît aujourd'hui comme étant le Festiram. Au départ, ça s'appelait la traversée... de 55 km en chaloupe à rame. Bref, un nom qui est beaucoup trop long aujourd'hui à écrire sur une page Facebook. Mais c'était l'essence du Festiram qu'on connaît aujourd'hui. Mais oui, ce week-end, c'est 13 équipes qu'on a pu voir compétitionner sur le lac Saint-Jean, ce qui était quand même un record là, d'inscription là, parmi les dernières années, étant donné que c'était le 50e anniversaire.
C'est
important pour nous de remousser.
C'est tout un événement quand même, 42 kilomètres à la rame comme ça. C'est Samuel Lapointe hein, qui a gagné, mais avec un autre, je pense. Hein? Ils étaient
avec
deux. Nicolas Proulx. Voilà.
Exactement. Ils ont fini premier. Il faut savoir qu'il y a des courses préparatoires et qu'ils en avaient déjà gagné une. Donc, ils sont partis avec deux trophées, eux, ce week-end, soit celui de Festiram et celui de la saison du circuit régional de chaloupe à rame qu'on appelle le CRCR.
C'est ça. Ils étaient très préparés, semble-t-il, physiquement. Là, c'était vraiment quelque chose. Et puis, c'est ça. Donc, ils ont effectivement remporté ce marathon de 42 kilomètres à la rame, vraiment sur le lac Saint-Jean. Et puis, il y avait énormément de spectateurs, de supporters pour, évidemment, les accueillir et tout. Alors, vraiment, bel événement qui existe, comme on le dit, depuis 50 ans maintenant, avec le volet artistique, si on veut, le volet plus festif. Alors, vraiment, c'est une belle initiative. Et puis, en fait, le volet plus festif, finalement, il est connu sous le nom de Festialma, hein, c'est ça?
En fait, Festivalma, c'est la corporation qui organise Festiram.
Ah, d'accord.
Mais vraiment, le volet musical fait partie de Festiram, qui est le nom du festival, qui regroupe le volet sportif et le volet musical. La compétition s'appelle toujours le marathon de chaloupe à rame, Festiram. C'est la seule différence peut-être entre les deux. Les gens d'ici, quand on parle de Festiram, on parle majoritairement du volet musical.
Parfait. Et puis, en fait, aussi, il y a cette place... place Festivalma, qui est une infrastructure unique en Amérique du Nord, qui a été construite, c'est un amphithéâtre extérieur, là. Ben, toutes les activités ne se déroulent pas nécessairement à cette place-là, je pense, hein? Mais si je ne m'abuse, ouais, c'est ça. Bon, mais quand même, ça a été construit en 1996 et à l'été 2020, il y a eu d'importants travaux qui ont été réalisés sur la scène et puis le toit a été, je pense, surélevé. Enfin, ça donne, c'est vraiment spectaculaire que cette place-là.
Exactement. Ben, c'est unique au Québec. Ça ressemble à un colisée romain. Ça a été construit par Béton Préfabriqué du Lac-Saint-Jean. C'est eux qui ont fait également le stade des Yankees de New York. Donc, si vous voulez avoir un petit comparatif un peu de comment ça a été fait, si vous avez visité à New York, c'est un peu la même expertise qui a été mise de l'avant ici. Et oui, en 2020, à place de se mettre les mains dans les poches durant la pandémie, on a décidé de rénover la scène et d'en profiter vu qu'on avait le temps. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'en recevoir des artistes d'envergure, chose qu'on pouvait moins faire
jadis. C'est ça. On a agrandi la scène, effectivement. On peut accueillir énormément de personnes. Écoutez, on s'arrête le temps d'une pause, M. Gagnon, et puis on revient pour parler de la programmation, bien entendu. Alors, à tout de suite!
Vous écoutez Aime l'été.
Nous sommes de retour avec Frédéric Gagnon, responsable des communications pour Festirama qui se déroule tout au long de la fin de semaine qui s'en vient. Et puis, bon, on va parler de ce qui se passe en fait aujourd'hui. Ben, je dis tout au long de la fin de semaine, mais c'est déjà en cours, bien sûr. Et on a évidemment des spectacles prévus aujourd'hui même. Alors, on a plusieurs. Donc, on a dit dès le début de l'émission que les Cowboys fringants avaient dû annuler là, et que c'était remplacé par les trois accords. Donc, ce sera fort agréable aussi. Mais on a aussi Bruno Rodeo qui sera là.
Exactement. Bruno Rodeo, qui est un artiste country de plus en plus en vue, qui vient de la région d'ici. Il a été remarqué au dernier Gala Gamic également comme étant nominé artiste country de l'année. Bruno Rodeo, on est vraiment content de le recevoir. On l'a eu dans diverses activités, mais c'est la première fois qu'on le met sur la grande scène. Cette année, on avait vraiment des belles premières parties. Je pense notamment à jeudi, nous aurons Tactica également qui ouvrira la soirée pour Soldia et aussi Gab Bouchard, une autre fierté régionale.
Absolument, il est très connu.
Qui sera en ouverture pour Daniel Bélanger ce vendredi. Donc, je crois vraiment qu'il y en a pour tous les goûts, mais également une soirée qui est très, très attendue, c'est celle de demain soir. On a Jeff Raw en première partie, mais les yeux sont tous rivés vers Charlotte Cardin, qui sera vraiment notre tête d'affiche du festival.
C'est ça. Donc, aujourd'hui, Bruno Rodeo, bon, connu pour son country, son rock qu'il a dans le sang, bien sûr. Alors voilà, très artiste très intéressant, très performant, bien sûr, homme orchestre. Et puis ensuite, bon, les trois accords. Il y a aussi Zach, ce dompteur de défis. Ça, c'est pour les plus jeunes, quoi.
Exactement, ça avait lieu ce matin. Chaque année, on fait ça. C'est en partenariat avec les camps de jour de la région. Donc, on a des autobus de jeunes qui débarquent chaque année pour un avant-midi. On leur offre un spectacle pour enfants. Et oui, c'était Zach, dompteur de défis, ce matin. Et c'est drôle, la pluie s'est acharnée sur nous hier oui. Pendant le spectacle de Justin Boulay et Brine Leboeuf. Après trois chansons, on a subi une panne majeure. Et ce matin, quand on a vu que la pluie était toujours aussi intense, on a déplacé le spectacle dans le centre multisport qui est juste à côté. On est vraiment content et choyé que la ville d'Alma nous appuie et nous libère aussi des ressources humaines la fin de semaine pour nous aider et même la semaine, peu importe. Dès qu'on a une urgence, hier en soirée à 23h, le téléphone répondait. On est vraiment choyé d'avoir cette belle collaboration-là.
Oui, c'est ça. Des partenaires vraiment solides qui vraiment vous rendent la vie plus facile. Faut dire bon que le Festiram est en cours, effectivement, depuis la fin de semaine, mais il y a eu Roxane Bruno, il y a eu d'autres artistes fort intéressants qui faisaient partie de votre programmation. Alors là, bon, demain, mercredi, alors on a parlé de Charlotte Cardin qui sera là, donc on sait qui a été propulsée en tête des nominations aux Juno Awards en 2022. Enfin, on connaît tout son succès, bien sûr. Il y a Geoffroy aussi qui sera là demain.
Exactement, qui assurera la première partie. Jeff Croix qui a été proposé par l'équipe de Charlotte Cardin, qui est un artiste montréalais, qui gagne vraiment beaucoup en visibilité. En fait, c'est rare qu'on a des artistes en première partie qui ont déjà plus d'un million d'écoutes sur Spotify, là. Mais Jeff Croix, il commence à être très établi. On est vraiment satisfait de pouvoir le proposer en ouverture demain soir.
C'est ça, quand même 3 albums à son actif, alors c'est pas rien. Alors donc, vraiment une belle énergie. Et bon, jeudi, également, Souldia qui sera là, qui, en fait, ça, c'est un rappeur de Limoilou.
Exactement. Je le qualifierais même de pionnier du rap. Ça fait quand même une vingtaine d'années qu'il roule sa bosse. Mais c'est vraiment récemment qu'il a sorti un album qui vraiment a fait un tabac dans le milieu du rap. Et ça a vraiment attiré une jeune génération de rappeurs. Et c'est pour ça qu'on a visé Tactica pour la première partie, parce qu'on voulait vraiment mêler 2 générations. Donc ceux qui écoutaient du Tactica et du Soldat dans les années 2000, début 2000, et qui ont redécouvert Soldat cette année, et je crois qu'il y a des gens qui vont venir avec leur enfant. Ça risque d'être quand même des très beaux moments que les gens vont passer, mais on va mêler les générations de cette soirée-là.
Oui, c'est ça qui est particulier, effectivement. C'est vraiment un festival pour tous, hein. Alors, vous mêlez effectivement les générations, c'est bien. Et puis, vendredi, on a parlé de Gab Bouchard, donc c'est à ne pas manquer, bien sûr. Daniel Bélanger. Et samedi, il y a un défilé dans le centre-ville.
Exactement. En fait, le samedi, on clôture l'événement avec une journée spéciale qu'on surnomme la Grande Nuit d'Alma. La Grande Nuit d'Alma, ça, c'est un événement qu'il y a eu dans les années 60 avant Festiram, mais qui était chapeauté par Festivalma. Et c'était un peu trop de chaos dans le centre-ville d'Alma. En bon québécois, les gens l'échappaient un petit peu trop. Donc, ça l'a arrêté d'exister. Ça l'a été ramené en 2017 pour le 150e anniversaire de la ville d'Alma. Mais ce fut tellement un succès que maintenant, année après année, on le ramène. C'est gratuit. Vous l'avez dit, il y a le défilé Festiram qui sera présenté à 18h15.
Ouais.
Mais il y a également un spectacle de Québec ici qui est présenté gratuitement à 20h, des feux d'artifice à 22h15. Et en soirée, il y a le groupe Drogue qui est composé de Pierre Fortin, qu'on connaît pour être le drummer des Delaware Chuck, qui est également le batteur des Cowboys Fringants, Jean-Sébastien Chouinard, qui a été guitariste pour Les Respectables. Et ensuite, le show principal, Mon nom est Serge et Anonymous qui viennent fêter les 20 ans de l'Académie du Massacre. Donc, inutile de vous dire que ce sera très festif sur la rue Saint-Joseph dans le centre-ville d'Alma.
Tout à fait. Puis Québec Sim, hein, évidemment, qui nous présente des tableaux représentant chaque époque musicale des années 60 à aujourd'hui. Bon, on connaît toujours leur concept, là, finalement, alors de Janis Joplin à Lady Gaga. Alors, ce sera vraiment très festif tout au long de la semaine et la fin de semaine qui vient. Donc, à Alma, c'est vraiment un beau festival, belle initiative. Et puis, écoutez, on va vous souhaiter du beau temps. On va se croiser les doigts pour que vous ayez vraiment que la pluie tombe ailleurs.
Exactement. Si vous prévoyez venir ce soir, emmenez vos bottes de pluie parce que le radar météo n'est pas de notre côté pour aujourd'hui, mais ça va s'améliorer pour le restant de la semaine.
Alors, c'est ça. Donc, pour tous, ce 5e Festivalma, ou enfin Festiram plutôt, voilà, c'est comme ça qu'on le dit. Alors, avec ce soir, les 3 accords qui seront là. Bonne chance et puis pour ce soir et puis pour les autres soirs. Merci, Frédéric Gagnon, d'être venu nous en parler.
Ça me fait vraiment plaisir et merci à vous de m'avoir reçu.
Au revoir.
Au revoir.
Quelque part entre Québec et Montréal, à côté de Berthier où tout le monde va gazer, il y a nos îles qui ont quelque chose de bien spécial. Écrase pas le pied, tu pourrais nous manquer. C'est pas une grande ville, c'est juste un village. On a tous un chalet à 3 minutes de nage. Tout le monde se connaît, tout le monde se tient pas le choix. On est tous des cousins. Puis y'a les filles des îles, une couette de bière autour du feu. Si les filles sortent en ville, une jupe de verre du feu d'un yeux. Si y'a un party des îles, tu vois rien le lendemain. On est loin d'être tranquille, la gueule de bois, ça nous va bien. On peut dire qu'il n'y a pas grand-chose chez nous. Dehors, les vieux prennent leur café debout. Puis on se commande de la pizza, pas le choix. C'est la seule chose qu'on a. Puis y'a les filles des îles, une couette de bière autour du feu. Si les filles sortent en ville, une jute de bar, du feu des yeux. Si un party des îles, et voit rien le lendemain. On est loin d'être tranquille, la gueule de bois, ça nous va bien. Le livreur de lait passe encore le matin. On vit de pêche à glace, de bateau, de bord de l'eau. J'aime ça, on est tous des voisins. Et puis au jour de l'an, au sous-sol de l'église, il y aura pas de décompte, je sais qu'ils seront tous là. Ma tante, mon oncle, moi sur le stage de bois. Et on boira à mon hommage aux îles. Pis y'a les filles des îles, une couette de bière autour du feu. Si les filles sortent en ville, une jute de bar, du feu des yeux. Si un party des îles, prévoit rien le lendemain. On est loin d'être tranquille, la gueule de bois, ça nous va bien. Pis y'a les filles des îles, une couette de bière autour du feu. Si les filles sortent en ville, une jute de bar, du feu des yeux. Si un party des îles, prévoit rien.
C'était la chanson « Fille des îles » interprétée par Laurence Saint-Martin.
Oui, des îles, on en a pas mal dans le Bas-Saint-Laurent et on accueille justement Hélène McCoy, chargée de projets spéciaux au Centre d'art de Kamouraska pour nous parler d'un premier festival d'art vivant, Archipel. Bonjour Hélène.
Bonjour, j'adore votre lien avec la chanson.
C'est bien, on aime ça, faire des liens
oui.
comme ça. Oui. Alors, ça nous met davantage dans le contexte ou enfin dans l'ambiance, quoi, finalement. Alors, cette belle région de Kamouraska, on aime tellement, évidemment. Et puis là, en plus, vous pensez à des projets pour nous attirer chez vous.
Oui, effectivement.
Il y a déjà beaucoup à voir, faut dire, mais quand même, là, c'est un premier... Premier départ pour vous, pour ce festival. D'abord, vous êtes chargée de projets spéciaux au Centre d'art de Kamouraska. J'aimerais ça qu'on parle juste un petit peu du Centre d'art, qui est un lieu phare quand même à Kamouraska.
Oui, effectivement. Dans le fond, c'est le Centre d'art de Kamouraska, c'est un lieu d'exposition en art actuel et pas nécessairement dans l'événementiel en tant que tel dans le monde des festivals. Donc, c'est vraiment une nouveauté, mais toujours en cohérence avec la mission de l'organisme, de la promotion de l'art, aussi sous toutes ses formes. On a décidé de faire un festival qui touche les arts vivants, qui est assez large. Donc, on reste ouvert à toutes les disciplines, on se ferme pas non plus. Et aussi, dans l'idée aussi d'ouvrir l'art, ben sortir des murs du Centre d'art en allant à la rencontre des gens, puis en mettant aussi en valeur le territoire et le patrimoine du Kamouraska. Donc, le festival, c'est pas juste non plus lié à les artistes, il y a la programmation, mais aussi la mise en valeur
Du territoire, exactement,
puis de certains lieux.
Du patrimoine bâti en même temps, exactement.
C'est ça, qui ne sont pas toujours faits pour accueillir des prestations, mais dans le cas d'Archipel, on les utilise pour ça. Puis c'est un peu l'angle qu'on voulait prendre avec Archipel.
C'est quelque chose qui manquait un petit peu parce que, bon, il y a des expositions, bien entendu. Alors, il y a évidemment ces paysages magnifiques, mais peut-être un événement rassembleur. Bon, c'est sûr que vous avez des partenaires, vous avez des gens qui vont en fait, se présenter lors de ce festival d'art vivant. Je pense au cirque. Bon, chacun a sa programmation, mais là, vous réunissez vraiment différents partenaires justement pour créer un lieu, un endroit rassembleur en même temps et découvrir pas juste le village même de Kamouraska, mais je pense à Saint-Pascal, je pense à d'autres endroits où il y a plein d'activités aussi tout autour Saint-Denis. Enfin, c'est quand même assez grand.
Oui, oui, puis c'était vraiment une volonté dans ce projet. Pour l'édition 1, on s'est quand même limité un peu. On essaie de faire une première édition puis de la faire plus raisonnable, on va dire, pour commencer. Parce qu'après ça, on a des ambitions, c'est sûr, d'aller encore plus loin, de visiter encore plus les autres municipalités du Kamouraska. Donc, pour cette année, on est à Saint-Denis-sur-Mer, à Saint-Pascal, à Kamouraska et à Saint-Germain de Kamouraska. C'est quand même c'est un territoire étendu, mais quand même qui se fait super bien, qui est déjà quand même bien visité. Oui. On avait vraiment envie que ça soit d'amener les gens aussi. C'est Saint-Pascal, c'est littéralement 5 minutes de Kamouraska en auto. C'est vraiment très près. Ouais. Donc, c'était quand même une belle opportunité pour les gens de venir visiter Saint-Pascal. Et surtout qu'il y a une nouvelle exposition, un nouvel espace, en fait, qui est l'expo sur le site de l'Expo agricole. Le bâtiment centenaire a été rénové complètement pour accueillir un marché public tous les dimanches. Donc, nous, en voyant ça, on s'est dit que c'est un lieu extraordinaire pour recevoir des artistes, pour faire des spectacles. Et c'est ce qu'on va faire le samedi 15 juillet de 17h à 20h. On va avoir des prestations de musique, on va avoir un barbecue, des consommations sur place. Donc, on est vraiment content d'utiliser ce nouvel espace.
Tout à fait. Donc, vraiment à découvrir dès 17h, là, c'est ça. Bien des évidemment, puis aussi, ben, ça nous fait découvrir bon des produits locaux en même temps. On a évidemment, c'est sûr, ça fait partie du circuit de toute façon. Quand les touristes, quand on passe à Kamouraska, on visite tout naturellement autant Saint-Pascal que Saint-Denis, que Saint-Germain. Forcément, ça tout nous plaît finalement parce qu'il y a plein d'endroits naturels aussi à visiter là. Bon, c'est fort intéressant.
On a déjà l'accueil de nos partenaires a été super positif. Quand on a parlé du projet, on leur a dit que vous avez envie d'être un lieu de diffusion de notre festival. Ça a été un oui pour tout le monde. Les artistes aussi, tous les collaborateurs, que ce soit nos fournisseurs, nos partenaires pour tout ce qui entoure le festival, ça a été vraiment un enthousiasme là. C'est ça n'a pas été difficile de convaincre.
Non,
personne. Je
vous comprends tout à fait, parce que des gens qui sont très investis déjà, et d'ailleurs, on peut parler du coup d'envoi qui se donne ce vendredi chez Côté Est, qui est un endroit, un espace culinaire à la fois fort charmant et vraiment, c'est un endroit de passage obligé.
Oui, tout à fait. On se disait, on va demander à Côté Est s'ils veulent accueillir une prestation dans l'après-midi, mais en même temps, ils ont déjà un très bon achalandage, tout ça. Mais ça a été un oui tout de suite, pourquoi pas. Il y a vraiment une envie de... Cette idée-là, comme vous disiez, de rassembler, est aussi bien reçue et encouragée. Là. Donc, c'est le fun de pouvoir faire ça. On dirait que c'était juste... C'était parce que personne ne l'avait fait encore, parce que ce n'était pas un manque de volonté ou quoi que ce soit. C'est vraiment pas... Et là, on le ressent que ça a tout à fait sa place, ce type de festival. C'est ça, on va être chez Côté Est le vendredi après-midi. Donc, on fait un après-midi littérature, poésie, avec accordéon. On a trois artistes qui ont décidé de collaborer ensemble pour nous faire une prestation commune. Et on en profite justement pour accueillir les gens, puis vraiment lancer le festival.
Tout à fait.
Et c'est ça, c'est un lieu. C'est sûr que la terrasse du Côté Est, c'est dur à battre là, comme lieu pour écouter des artistes.
Et puis tout à fait gratuitement, par la suite dès 17h. Bon, il y a l'Orchestre Continental. Ça va se passer. C'est un spectacle déambulatoire entre l'ancien presbytère et l'ancien palais de justice, je pense.
Exactement. Une petite marche de quelques minutes pour amener les gens du Côté Est vers le centre d'art de Kamouraska. Donc, comme vous le dites, l'ancien presbytère vers l'ancien palais de justice. Pour 5 à 7 DJ, bouffe, devant le centre d'art de Kamouraska à l'extérieur. Et là, on fait vraiment, on en profite, on se met un peu dans l'ambiance pour par la suite se rendre à l'église Saint-Louis de Kamouraska, qui est tout à distance à pied, pour le spectacle de Flore Laurentienne le vendredi soir.
Tout à fait.
Donc vraiment, le vendredi, on reste à Kamouraska, puis on a une programmation super là, il reste toujours des billets pour le spectacle de Flore Laurentienne. Puis c'est ça qu'on dit, on invite aussi les gens on va avoir des billets à la porte aussi. Tu sais, des fois, en tant que touriste de passage, on ne veut pas trop prendre d'engagement, là, mais il va y avoir des billets à la porte aussi.
Oui, très peu cher aussi, hein, c'est pas un problème.
Oui, très accessible.
Vraiment très accessible. Alors donc, des spectacles gratuits, des événements gratuits, mais aussi des spectacles payants, mais vraiment très peu chers. Alors vraiment, et Flore Laurentienne, mariage fort intéressant, orchestre à cordes et synthétiseurs des années 60 et 70. Enfin, c'est un artiste vraiment à découvrir, fort intéressant, donc à l'église Saint-Louis de Kamouraska. Et puis bon, samedi, on a parlé aussi de plein d'autres activités. Là, je pense aussi à Vuine Brequin.
Oui, tout à fait, qui est un espèce de un trio qui mélange ébénisterie, sculpture, danse et accordéon. C'est vraiment c'est des artistes de trois pistoles qui ont décidé de mélanger leurs différentes expertises et leurs différentes formes d'art pour faire un spectacle unique qui je ne crois pas là, que ça se fait ailleurs ce type de
non,
mélange. Ça va être, j'ai très hâte de voir ça va être une belle découverte.
Tout à fait, donc très particulier, donc un dispositif particulier également, donc ce sera vraiment à découvrir. Bois, on dit bois, corps, CORPS, et son, alors vraiment intriguant. Et puis, autant des cordes, ça, c'est en fait les jeunes du camp musical Saint-Alexandre qui vont offrir une prestation musicale également. Alors,
En fait, c'est plutôt des... on a mandaté le camp musical de nous trouver des artistes sont en lien avec eux. Donc, c'est pas des jeunes, mais c'est des artistes des gens qui ont déjà enseigné au camp musical ou qui sont proches du camp musical. Donc, ça a vraiment été, on a demandé au camp d'être partenaire avec nous pour programmer un artiste qui ferait du sens dans le festival.
Ouais.
C'est sûr aussi qu'il faut dire que nous, notre programmation est faite très à l'avance. Donc, le camp musical, eux, ça se passe présentement. Fait qu'ils ne pouvaient pas vraiment se... On peut pas avoir des jeunes qui sont en train de faire de faire leur camp, mais quand même, c'est un super beau, une super belle prestation qu'on nous offrir.
La formation Autant des cordes, en fait, c'est ça,
exactement,
les musiciens qu'on présente de ce côté-là. Et puis, il y a Josiane Bernier qui, elle, c'est une danseuse contemporaine, donc elle va effectivement offrir une prestation également. Alors, vraiment très varié comme programmation aussi. Et puis, bon, on continue comme ça. Il y a Guilhem qui va nous offrir de la musique pop-rock également.
Oui, tout à fait. Guilhem de Rimouski avec son groupe. Donc, on y va dans le pop-rock avec, en première partie, Collation, un groupe de Rivière-du-Loup. On est encore dans le pop-rock. Donc, c'est des jeunes... je dirais de la relève, mais qui ont quand même fait plusieurs événements, plusieurs festivals, là, qui ont tourné quand même pas mal dans la région et à Montréal, tout ça. Donc, une belle soirée à Saint-Pascal, justement. On invite les gens à venir faire un tour, que ce soit pour voir les artistes, que ce soit pour l'espace, ce nouveau lieu, de venir le découvrir, ça vaut la peine, là, franchement.
Tout à fait. Alors, bref, il y a aussi le cirque de la Pointe-Sèche. Ça, ce sera pour dimanche. Vraiment, c'est vraiment un cirque. En fait, ce sont des ambassadeurs du Kamouraska parce que vraiment, ils se sont implantés dans la région. Premier cirque extérieur de l'Est du Québec, le cirque de la Pointe-Sèche, vraiment à retenir, qui présentera, quand même une prestation dans votre festival, mais aussi qui a son propre spectacle dans la région, vraiment bien installé au cœur de cette région. Alors, vraiment très intéressant.
Ils profitent de leur journée de congé, les artistes, on leur a dit, vous avez congé, est-ce que ça vous tente de participer?
Mais oui, pourquoi pas, tiens.
Fait qu'on a quatre artistes qui sont du spectacle qui est présentement à l'affiche qui vont faire une performance trampoline et sangle aérienne à l'intérieur de l'église de Saint-Germain. Ensuite, on invite les gens à sortir de l'église pour une prestation, pour continuer la journée avec Mississippi Sound System, qui est un orchestre de tambour, et l'orchestrade. Là, c'est vraiment, on vient danser, c'est de la danse traditionnelle, la danse calée, typique et qui est très, très populaire dans la région d'ailleurs. Là. Il y a une belle, un bon engouement pour la danse traditionnelle et donc on va mettre les gens un peu, on va demander aux gens là, de sortir leur souliers de danse et venir danser avec nous.
Parfait. Alors, ben, c'est bien. Oui, c'est ça. Donc, le message est lancé. Écoutez, le projet, en fait, ce festival d'art vivant Archipel, c'est une première et on vous souhaite longue vie à ce festival. Alors, vraiment, très intéressant. Hélène McCoy, chargée de projets spéciaux au Centre d'art de Kamouraska. Merci d'être venue nous en parler.
Merci de m'avoir accueilli. Merci beaucoup.
Au plaisir et bon festival.
Merci.
Eh bien, j'accueille à l'instant Anaïs Sabourin, avec qui je vais clore l'émission, parce que, bon, tu nous reviens cette semaine avec une chronique. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu de ce que tu vas nous parler, de ce dont tu vas nous parler jeudi?
Oui, bien, en fait, cette semaine, je vais y aller avec un petit bref un peu vague, mais moi, en gros, cette semaine, j'ai envie de vous parler du regard sur la différence, en fait, du regard sur les personnes handicapées en général. Puis j'ai envie aussi de vous parler de mon expérience personnelle du fait même, donc vous allez voir ça
bon,
ce jeudi.
C'est jeudi. Donc, Anaïs Sabourin, qui est recherchiste, bien sûr. Ben, merci aussi pour cette belle recherche aujourd'hui. Et en passant, ben oui, tu as été au festival de jazz. Et puis, bon, on voulait juste rappeler aux gens, dans ce genre de festival, bon, il est terminé le festival, mais dans ce genre de festival, évidemment, depuis le temps que ça existe, c'est sûr qu'on accueille, on veut faire de grands efforts pour accueillir le plus de gens à mobilité réduite possible. Et soyez bien attentifs aussi à réserver vos places, parce que peut-être que si vous ne le faites pas, l'accueil sera moins... donc vous ne serez peut-être pas accueilli comme vous le souhaitez, parce qu'évidemment, tout le monde est débordé, bien entendu, quand on
arrive. Puis ce qu'il faut savoir, en fait, là, c'est qu'il y a un espace réservé à la scène principale, mais à cet endroit-là, il faut réserver notre place, ce qui n'est pas super clair là, sur le site Internet quand on va visiter rapidement la programmation. Donc ça, c'est super important à savoir. C'est aussi le cas pour le Festival Les Franco. Donc, il faut aussi réserver notre espace quand on est une personne à mobilité réduite et on a le droit à seulement un accompagnateur. Donc, c'est quelque chose qu'il faut quand même savoir et planifier.
Ouais.
Mais faut aussi mentionner que c'est pas sur toutes les scènes que cet espace-là. Donc, faut en être conscient aussi en tant que personne à mobilité réduite là, qui se déplace pour aller à un festival. Il faut savoir que, oui, la scène principale a un espace réservé, mais si vous allez à d'autres spectacles sur les petites scènes, vous n'aurez pas nécessairement de place réservée.
Ouais. Et puis, évidemment, c'est de plus en plus chargé, hein, ce type de lieu-là.
Oui.
Alors, forcément, c'est comme un espèce de labyrinthe. Donc, il faut parfois être guidé. Il faut peut-être solliciter davantage les gens, les gens de la sécurité pour qu'on nous trace finalement un chemin. Parce que oui, même quand on n'est pas à mobilité réduite, ça peut être compliqué de se déplacer. Hey, merci, Anaïs. On en reparlera de toute façon. Merci de ton expérience. On te retrouve jeudi. Merci à tous d'avoir été des nôtres et je vous souhaite un bon après-midi. On se retrouve demain entre midi et 13h. Aime l'été!